quelque chose en toi, c'est de l'intime dans le militantisme.
Pour montrer qu'on peut changer le monde sans être le Che Guevara ou Greta Thunberg.
Moi, je suis dans le SS et les alternatives comme chez moi, parce que je viens d'une famille d'immigrés italiens très marqués à gauche. Grand-père Coco, mon père qui a fait ses classes dans la résistance pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et puis, une grande sœur, un grand frère dans le gauchisme post-68. Donc moi, je suis comme chez moi dans tout ça. Donc, je navigue là-dedans depuis l'enfance et l'adolescence. Et après... Je pense que quand j'étais au lycée, les projets alternatifs, les communautés, tout ça, ça me faisait bien rêver. Ouais. Et donc quand je me suis retrouvé en fac, c'était un des sujets que je voulais aborder, quoi. Donc finalement, d'être là-dedans, c'est logique, quoi. En fait, j'ai pas dévié, quoi.
Est-ce que c'est un garçon ?
Oui.
Est-ce qu'il a des lunettes ?
Oui.
Wow. Olivier Sansetti, je travaille dans une association qui s'appelle l'Éco-Habitant, que j'ai fondée en 2006 avec d'autres complices, et qui s'occupe d'habitat participatif. Alors, la définition de l'habitat participatif, ça peut quand même être utile. Je ne reviens pas sur l'origine, je ne reviens pas au 19e siècle, tout ça, on peut aller chercher loin. Mais en gros, dans les années 70-80, il y a un mouvement de démarche collective dans l'habitat. Il y a eu les communautés, il y a eu l'habitat autogéré et tous ces trucs-là. On est issu de ça, mais ça s'est interrompu en France, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, les pays scandinaves, etc., eux, ils ne se sont pas arrêtés. Mais il y a une politique de l'accession individuelle au logement en France qui était très soutenue. Et ça fait que ça s'est un peu perdu en cours de route. Et vers la fin des années 80, on n'en voyait plus. Et puis, au milieu des années 2000, c'est revenu parce qu'il y avait une problématique environnementale qui commençait à venir. Il y avait les éco-quartiers qui incitaient à faire de la participation. Il y avait le fait que certains se disaient pour moi, accéder tout seul, ça va être compliqué. Et puis, je ne sais pas, c'était dans l'air du temps, puisqu'on reparlait de connaître ses voisins, de faire des choses ensemble. Enfin, on reparlait de ça, quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter plus sur ton structure ? C'est qu'elle fait, c'est quoi son modèle ? Un peu plus sur les...
Ouais.
Ça, c'est quoi, vite ?
Alors, l'éco-habitant, donc, on est au Solilab. On a 4 domaines d'activité. Je vais résumer en 2 parties. Une partie qui est faire connaître l'habitat participatif, auprès des élus, des citoyens, des opérateurs du monde immobilier, mais reliés à l'ESS. On travaille surtout avec les organismes HLM. Et on a un partenariat aussi avec Nantes Métropole. On essaye d'avoir des subventions, pour l'instant on n'en a pas beaucoup, mais on pense que ça peut évoluer. Donc ce volet-là, c'est un volet militant. Qui n'a pas de modèle économique en dehors des subventions, parce que tu ne vends pas une intervention. Donc l'éco-habitant, c'est le pôle local de l'habitat participatif, mais l'habitat participatif, c'est un réseau, c'est un mouvement. Donc il y a une structure nationale qui s'appelle Habitat Participatif France, qui est une tête de pont du mouvement. Il y a 4 salariés et je suis un des administrateurs. On est un comité de pilotage d'une dizaine de personnes et un conseil d'orientation équivalent au conseil d'administration d'une trentaine de personnes. Voilà. C'est pas tant que ça pour la France, on pourrait être plus. C'est un mouvement qui s'est constitué de rencontres de diverses associations à partir du milieu des années 2000, qui s'est officialisé pendant la loi Allure, qui a donné une reconnaissance à l'habitat participatif, puisqu'il y a un article de la loi Allure qui concerne l'habitat participatif. On a des relations avec un réseau de collectivités en faveur de l'habitat participatif, avec un réseau des accompagnateurs. Alors, l'autre volet de l'activité de l'éco-habitant, c'est d'accompagner les projets. Donc, on a créé un réseau des accompagnateurs pour définir le métier. Alors, le métier, c'est, pour le résumer, c'est accompagner le projet sur le plan technique, le projet immobilier. Mmh. Donc, c'est constituer la maîtrise d'ouvrage avec les habitants, et mener le projet immobilier. Dans le cadre du projet immobilier, il y a une partie programmatique, aider les habitants à faire leur programme et ensuite trouver leur architecte, et il y a une partie juridique et financière, et partenariale. Donc la structuration juridique et financière du projet et le partenaire, si on travaille avec un opérateur ou si les habitants font le projet eux-mêmes, c'est-à-dire ils deviennent maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Ce qui est un peu compliqué, donc on le fait pour certains projets, mais pas pour tous. Et ensuite, un projet, il peut partir d'un collectif, des gens qui se réunissent ou qui viennent à des réunions d'information et qui constituent un collectif, et puis après qui nous contactent pour voir comment on peut les aider. Mais depuis 2016, le programme local de l'habitat Nantes Métro, par exemple, a mis l'habitat participatif dans la programmation de logement. Donc on a des fois des projets à initiative de la collectivité, donc qui soit va proposer des terrains, soit va missionner un organisme HLM pour porter un projet. Et parfois, ils font appel à nous pour travailler avec le collectif d'habitants à constituer, quoi. Le truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un projet immobilier, mais c'est aussi un projet humain. Donc un collectif d'habitants, il peut être très autonome dans son fonctionnement, ou au contraire, il faut pouvoir des fois, il faut l'aider à créer sa façon de fonctionner, sa gouvernance, son organisation, comment ils prennent leurs décisions, les outils partagés, enfin tout, voilà, ça dépend ce qui manque, mais donc on propose aussi d'accompagner le collectif.
Et comment ça se passe concrètement? Quand il y a besoin de cet accompagnement, ils vous demandent, alors, c'est des projets déjà que vous montez ensemble ou il y a...
Ouais, au départ, on va au départ d'un projet, on établit une planification, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes et l'ensemble des choses qu'il faut qu'on traite. Et on voit avec les collectifs ce qu'ils font eux de manière autonome. Et puis ils font appel à nous s'il y a besoin ou au contraire là où on doit les accompagner et mettre en place. Une démarche de travail. Il y a trois façons de faire. Il y a soit tu laisses les gens faire et puis ils reviennent vers toi quand ils bloquent. Mm-hmm. Soit tu fais avec eux. Donc dans le cadre d'ateliers, par exemple, on met en place des ateliers, un cycle d'ateliers sur la gouvernance ou sur la raison d'être du projet ou sur la charte, les valeurs, des choses comme ça. Ou alors on fait pour. Faire pour, c'est par exemple, en fonction de ce qu'ils veulent faire et des moyens qu'ils ont pour le faire, je leur propose un montage juridique. Mm-hmm. Donc là, c'est plus moi qui vais le faire. Même s'ils valident. Voilà.
Et du coup, ils vous financent. C'est le groupe alors, de futurs habitants qui vous finance pour faire ça.
Voilà. Du coup, alors ce qui est compliqué, c'est au début, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va y arriver. Donc, on essaye de trouver les moyens, soit par des subs, soit par une participation de la collectivité, soit un petit budget que le groupe constitue pour payer la première étape. Mais après, c'est le maître d'ouvrage qui paye. Donc, si le maître d'ouvrage, c'est un collectif d'habitants, bah, c'est lui qui doit financer son projet. Si le maître d'ouvrage est un organisme HLM, bah, c'est lui qui nous paye. Mmh. Voilà. Donc, on définit un ensemble de prestations avec un devis, des échéances, etc. Quoi. Les configurations des projets, en initiative habitante, parfois, ils ont déjà une idée du modèle juridique. Par exemple, les coopératives, parce qu'ils en ont entendu parler, parce que ça correspond à leurs valeurs, ils nous branchent tout de suite là-dessus. Alors moi, je monte des coopératives d'habitants, donc il n'y a pas de problème pour répondre. Par contre, des fois, ils veulent une coopérative, mais on s'aperçoit que derrière, financièrement, soit ils ne peuvent pas, soit ils sont encore un peu attachés à la propriété privée. Parce que la coopérative, c'est une propriété collective, donc il n'y a pas de propriété, on est locataire de la coopérative. Enfin voilà, c'est un modèle très alternatif. Donc il faut un peu creuser le sujet pour voir s'ils vont vraiment être en capacité d'aller au bout de ce modèle. Et puis à l'inverse, quand c'est un projet initiative publique avec un opérateur social, donc aujourd'hui on a le Bayrail solidaire par exemple, c'est une forme d'accession sociale où les habitants ne sont pas propriétaires du foncier, ils sont propriétaires que des murs. Alors c'est bien, c'est anti-spéculatif, tu peux pas dans 5-10 ans revaloriser le patrimoine à 50% de sa valeur initiale, enfin voilà, ça contraint un peu, ça encadre tout ça. Et en même temps, du fait que tu ne payes pas le foncier, tu payes un peu moins cher. Et puis les prix sont encadrés. Il y a un plafond de prix, tout ça. Donc voilà, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de dédier une programmation en Bayrail solidaire à une coopérative. On travaille dessus, mais c'est compliqué. Et si les habitants, ce n'est pas leur problème, on va faire une copro. Mais derrière, il faut... Voilà. Et puis c'est pareil pour le locatif social, qui a d'autres contraintes réglementaires. Enfin bon, voilà, donc... On essaie de s'adapter aux différentes configurations. Bon, maintenant, on a un retour de plusieurs années de pratique. On commence à peu près à trouver un peu les cadres de montage, quoi.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
Écoute Olivier, on a bien compris ce que tu faisais, je crois, et que bon, tu connais ça sur le bout des doigts. Ouais, maintenant, on va faire un petit saut dans le passé pour comprendre pourquoi tu fais ça.
Ouais, bonne, bonne question.
Et parler de toi.
Qu'est-ce que je fous là-dedans ?
Qu'est-ce que tu fous là ? Comment tu as atterri dans cette structure ? C'est quoi ton parcours ouais, de vie en fait, qui t'a amené à t'intéresser et aux aspects participatifs, coopératifs et à l'habitat ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta
ouais,
vie,
ouais,
ton œuvre ?
Alors, je repars de l'époque de la fac. Et puis, si on veut, on ira plus en amont après. Quand j'étais étudiant, j'étais en socio, je m'intéressais, entre autres, pas que, mais je m'intéressais beaucoup à la critique sociale, donc ça c'était mon dada, mais je m'intéressais aussi aux utopies. Donc j'avais fait un mémoire sur Fourier, en trucs d'histoire, enfin des trucs comme ça, des sujets comme ça. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise sur les mouvements alternatifs. Et comme la France n'était pas hyper développée, j'allais traîner mes guêtres à Berlin, où là j'ai vu un quartier entier alternatif, un Kreuzberg. Alors c'était avant la chute du mur, donc ça remonte à un peu. Et c'était pratique parce que ma sœur vivant là-bas, j'atterrissais, puis après j'allais me balader. Mon seul problème, c'était que je n'étais pas bon en allemand, donc je devais parler anglais, mais bon, les Allemands sont anglophones, donc j'ai pu en tirer des choses. Mais j'ai vu des trucs déments, enfin, des anciennes factories locales, squattées, enfin, des immeubles dans du vieux Berlin d'avant-guerre qui n'a pas été détruit, squattées et ensuite rénovées, réhabilitées avec des accords avec la ville de Berlin, des contrats. Et puis, donc, d'une illégalisation des squats. Alors, et ça existe toujours, ça. Je suis allé à Berlin l'année dernière. Et il y a un site internet où il y a l'histoire des squats des années 70, 80, 90, ça existe toujours. Et puis les squats aujourd'hui qui sont squats ou les squats aujourd'hui qui sont légalisés, ceux qui ont disparu.
C'est pas un truc ultra stigmatisé comme ici avec
Non. Dans les pays d'Europe du Nord, très vite on trouve des accords parce que voilà. Et puis le Berlin de l'époque était particulier parce que le service militaire n'était pas obligatoire. C'était la seule ville parce qu'on était. Voilà, ils avaient un statut particulier. Donc, résultat, tous les antimilitaristes, les babacools, les gauchos de l'époque atterrissaient à Berlin. Et donc, ça faisait un quartier, quoi. Mmh. Voilà. Puis, il y en avait dans d'autres quartiers, mais il y avait surtout le quartier de Kreuzberg, quoi. Donc, ça, c'est. Voilà. Je m'intéresse à ça à ce moment-là. Et puis, après, je finis mes études. Je traîne un peu. Et puis, à un moment donné, je travaille dans un bureau d'études en SCOP. Mais rien à voir. On s'occupe d'études, de déplacements, de réseaux de transport très techniques pour le compte des collectivités.
C'était où à ce moment-là ?
À Toulouse. Tout ça, c'est à Toulouse.
D'accord.
Donc, région, donc client, région, département, agglo. Puis ça peut être. C'était d'abord Midi-Pyrénées à l'époque, donc la région de Toulouse. Mmh. Maintenant, c'est fusionné avec Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, mais à l'époque, Midi-Pyrénées. Mais je suis allé faire le réseau de transport de Douarnenez. Enfin, toi, c'est. On pouvait se déplacer. Donc ça m'a appris à bosser avec les collectivités, avec les élus, et puis j'ai travaillé avec des ingénieurs, donc ça m'a appris les tableurs Excel, les plans de financement, les machins, la gestion de projet. J'ai appris ça là-dedans. Et puis en 2004, on a décidé avec ma compagne de se mettre ensemble. Et elle habitait, elle avait hérité d'un bout de longère à côté de Mauves-sur-Loire, chez des copains de longue date, qui avaient acheté ensemble deux longères et 5 hectares vendus en indivision. Donc des copains qui avaient pratiqué aussi la communauté dans les années 70, la colocation et la rénovation collective, mais entre potes. Voilà. Ouais. Alors ça inspire aussi. Bon, ça inspire ce qu'il faut, ce qu'on peut faire et ne pas faire d'ailleurs. Parce qu'entre potes, c'est pas pareil. Entre potes, il y a pas de règles et puis après on s'engueule. Enfin, tu vois, c'est voilà. Donc je vis dans un, moi j'appelle ça un habitat dégroupé. C'est-à-dire, je vis avec des copains de longue date, des gens que je connais depuis que j'ai 20 ans. Et avec qui je fais moins de choses qu'à l'époque, et qui n'étaient pas des Nantais non plus, enfin, c'est des gens qui... Bref, donc... Et à ce moment-là, donc c'est dans l'air du temps, donc je veux revenir à la fac, je veux faire de l'urba, je ne suis pas accepté, je me retrouve en économie sociale à Rennes, au collège coopératif. Il n'y a pas de hasard, enfin, il n'y en a pas forcément. Et au moment de mon entretien, je croise Pierre-Yves Jean, donc le gars de Rennes avec qui on a monté... le réseau de l'Ouest de l'habitat participatif. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'était quoi la question ?
C'était ça. Comment tu as atterri à la maturité ? Voilà.
Et donc après, on a défriché. Donc moi, j'étais au chômage, j'étais à la fac, on a commencé à défricher, on a créé un groupe de travail à Nantes pendant qu'il créait un groupe de travail à Rennes. Au bout de quelques mois, on a proposé une réunion publique. C'était à B17, la rue Bellamy. C'est là où il y a l'atelier de mécanique, il y a des salles de réunion au-dessus. Okay. Il y a eu 30 participants. On a créé l'association à la suite. Et à la même époque, Ecosoli lançait son ramdam devant le palais de justice. Vous n'avez pas connu ça ?
Non, je ne connais pas cette histoire.
Alors, c'est la première manifestation d'Ecosoli, c'est de faire rencontrer les acteurs de l'ESS local à travers donc, des tentes, des... Tu vois, des Et on occupe devant le palais de justice tout le long de la Loire, là. Et puis, voilà, chacun fait son événement. Et puis, on peut aller d'un stand à l'autre, tu vois. Et j'ai fait ma première intervention sur l'habitat autogéré à ce moment-là. Et voilà. Et puis après, ça a mis beaucoup de temps. On a adhéré aux Ecosoli début 2007. On a eu un peu de subvention aussi avec Nantes Métro, là, les 5000 euros de création d'activité de l'ESS renouvelable 3 ans. Et puis à un moment donné, je me suis salarié quand il y a eu des opportunités d'opération avec le Fonds social européen, là, avec un FSE, un dispositif FSE. Mm-hmm. Et ça, c'est en 2010. Donc tu vois, il m'a quand même fallu 4 ans. Enfin, 3 ans, parce que on va dire que jusqu'à la fin 2006, c'est pas rare. Mais à partir de la création de l'ASSO et la première mission finançable, qui était la boîte noire, donc un petit projet à Bottière-Chaînée de 6 logements. Voilà, 3 ans et demi, quoi. Donc, avec du chômage, et après, j'ai dû retourner bosser, tu vois, enfin, j'ai dû jongler.
Retourner bosser dans quoi, du coup ?
Ben, en fait, j'ai fait rien à voir, j'ai appris à m'occuper d'arbres fruitiers et de légumes, pas loin de chez moi, là, tu sais, le long de la Loire, chez les primeurs, là, qu'on appelle ça, enfin bref. Avec une partie en reconversion bio, c'était pas terrible.
Ouais,
c'était ouvrier agricole, c'était pas terrible, il y avait une ambiance. C'était pas une coopérative.
Pourquoi tu aimes faire ce que tu fais ? En quoi ça parle à l'ado, l'enfant, ou à l'Olivier qu'on a devant nous maintenant ?
Donc le fait de bousculer les façons de faire, d'être dans la transition en fait, mais d'essayer d'incarner la transition au niveau de l'habitat, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on amène de l'innovation, on amène des idées, on amène plein de choses. Après, ça décolle pas. Enfin, on est à 1100 projets en France. C'est pas un vrai décollage, quoi. Voilà. Si on est capable de continuer à innover, il faut qu'on arrive à monter des systèmes alternatifs de financement. Vous connaissez Terre de Liens ?
Oui.
Bon, si on arrivait à faire un équivalent en habitat alternatif, qui permet de mobiliser de l'épargne citoyenne, parce qu'il paraît qu'il y a plein d'épargne. Il paraît que les Français ont plein d'épargne. Bon. J'en sais rien, hein, mais est-ce qu'on peut mobiliser une partie de cette épargne généreuse dans un cadre très encadré, hein, voilà, avec un outil qui soit performant, parce que les fonds propres, enfin les apports des gens suffisent plus, oui, puis il faut qu'on puisse ouvrir à un maximum de gens, donc et du côté des banques, ben si t'as pas 30 ou 35% d'apport, ça devient compliqué, donc si on peut développer des outils financiers complémentaires, ça peut permettre d'améliorer les choses. Puis après, il faut, faut améliorer aussi l'application des territoires, des collectivités. Si les villages veulent redensifier dans les corps de bourg, il faut qu'ils s'en mêlent. Si les agglos veulent, développer le logement sur le logement pour éviter l'étalement urbain, etc. Nous, on arrive, dans les projets, comme on a des espaces communs et des espaces privés, on arrive à densifier de manière intéressante. Il y a aussi un génie des architectes, mais quand c'est conduit avec les habitants, c'est mieux pensé, c'est mieux accepté. Voilà.
Le logement, l'habitat et l'acte d'habiter, c'est politique, quoi, en fait.
Complètement.
On a l'impression que c'est le côté alternatif
qui plaît complètement
beaucoup, et que ça s'est porté sur l'habitat, mais ça aurait pu se porter sur ailleurs, autre chose.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que si demain, l'habitat participatif devenait la norme, tu irais chercher des modes de penser et de faire alternatif dans d'autres
domaines? Oui, à partir du moment où ça rentre dans la norme, je me casse.
Voilà, c'est ça qui t'attire.
C'est
ça qui te
motive,
en fait.
Et d'ailleurs, j'étais en épuisement mental l'année dernière, et puis que c'est revenu à la rentrée, parce que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup, et on se prend pas mal la tête, et puis comme on se bagarre avec l'État pour faire bouger plein de choses, et puis que ça n'avance pas, enfin, bon, voilà. Et puis, en fait, il y a eu quelques bonnes nouvelles, d'ailleurs. Bon, comme quoi, des fois, ça avance quand même, mais on a des gouvernements qui sont ce qu'ils sont, et c'est pas avec eux qu'on va avancer le plus vite, quoi. Donc, on a perdu du flot, c'était trop tôt, quoi. Quand elle a fait la loi Allure, bon, voilà, on n'est même pas allé au bout, elle n'a même pas été là pour le vote de la loi, enfin, donc, ça nous a beaucoup manqué à ce moment-là. Mais sinon, j'étais en train de réfléchir sur des reconversions, de commencer à aller voir ailleurs. Puis d'ailleurs, je vais le faire. Je vais voir ce qui se passe localement ailleurs. Puis peut-être je resterai là où je suis, mais c'est histoire de voir s'il y a d'autres. Par contre, à mon âge, relancer un projet, puis passer 4 ans à le faire décoller, comme j'ai fait il y a bientôt 20 ans, je ne pense pas que je le ferai.
Ça demande de l'énergie.
Puis quand on a démarré, je ne pensais pas que ça mettrait autant de temps.
Oui.
Parce que comme moi je suis dans ce milieu-là, comme chez moi, je me rends pas compte que ce qu'on raconte, c'est des fois ça c'est du chinois pour les gens, quoi. Donc c'est ça prend du temps d'expliquer.
Peut-être que le champ des possibles de l'époque était plus ouvert qu'actuellement aussi. Je sais pas. J'ai l'impression.
Je crois
que...
pas.
Non. Pas tellement. Ça c'est une bonne nouvelle.
Non, je pense.
C'est pas de pire en pire.
Ce qui a mûri, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas parler d'habitat participatif, comme je l'ai fait à la mairie d'Indre lundi, tu parles plus chinois. Voilà. Après, ils ont besoin de précision, ils posent des questions, parce que c'est pas leur monde, mais ils savent que ça existe, et puis on a plein de projets maintenant dont on peut parler.
Et vous suivez maintenant ces projets ?
Il y a des projets avec lesquels on reste en contact, parce que le mouvement propose des événements, notamment tous les ans, il y a des journées portes ouvertes, pour donner à ceux qui veulent démarrer, à voir les projets réalisés, donc il y a une mise en relation.
L'échange, quoi, ouais.
Voilà.
Thank you.
Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui te vient en tête, un souvenir particulièrement emblématique que tu as aimé ou que tu as détesté, mais quelque chose qui incarne ce que tu nous racontes là, un souvenir, un groupe d'habitants que tu aurais particulièrement aimé accompagner ou particulièrement détesté accompagner, quelque chose, une histoire.
Mais j'ai particulièrement aimé un projet qui est à Fête-Bretagne, au lieu d'Île à Noé, ça s'appelle Casa Noé. Parce que ça, c'est un projet qui en gros, regroupe pas mal de choses en termes de ce que moi j'aime bien. Alors, c'est une coopérative d'habitants avec un agrément prélocatif social. Donc, c'est un projet social à but non lucratif sur la durée, c'est-à-dire 40 ans d'emprunt. Les habitants ne seront jamais propriétaires, c'est la coopérative qui va le rester. Soutenu par la communauté de communes qui a garanti l'emprunt. L'élu, au bout d'un quart d'heure, c'était bon. J'ai jamais vu ça. On se bagarre des mois avec d'autres territoires pour avoir la garantie. Parce qu'il faut une garantie aux emprunts. Donc, lui, il avait dû être briefé par son chargé de mission, mais c'est bête, le pauvre, il est décédé. C'était un élu, il avait des problèmes de cœur, puis il n'était pas jeune, mais ça a été génial. Et puis, les habitants, ils retapaient un ancien lieu de réinsertion, qui était donc une ancienne ferme réadaptée. C'était moche comme tout, c'était mal fait. Mmh. Ils ont embelli ça, je ne te dis pas, et en autoconstruction, avec les artisans, ou sans. C'est-à-dire ils se sont arrangés avec les artisans pour bosser avec eux, ou ils ont fait eux-mêmes. Et ils ont fait des trucs magnifiques. Ouais. Et puis, ils ont un beau terrain, ils ont utilisé une partie de leurs châtaigniers qui sont sur la propriété pour retaper certains coins de charpente. Enfin, ils ont été malins du début à la fin, quoi.
Ouais.
Et puis ils prennent en charge leur gestion. Donc, à partir du moment où j'ai mis les trucs en place, j'ai quasiment pas à intervenir parce qu'ils sont bons, quoi.
Ouais,
donc ça, c'est un peu le projet idéal, quoi. Mmh. Un collectif qui monte en compétences, qui travaille avec les partenaires, avec l'architecte, les entreprises, mais sans se friter avec eux. Même s'il y a des moments de tension par moment, peut-être, ça c'est normal, mais ça avance, puis c'est livré. Puis j'ai emmené le banquier qui a financé donc, le prêt PLS, il était aux anges, quoi. Bon, c'était un gars du Crédit Mutuel qui aimait bien aussi avoir d'autres trucs, des ouais. projets un peu innovants comme ça, ou différents, mais ça, il était aux anges, quoi. Il a trouvé qu'il était content d'avoir financé ça, quoi. Donc là, on avait toutes les bonnes conditions réunies. Après, c'est un projet, ils sont 9 foyers, je crois. Moi, j'aime bien les projets. À Berlin ou en Suisse, ils sont 100, 150,
oui.
200.
Oui, oui,
c'est,
oui.
D'autres, c'est une autre dimension.
C'est des quartiers, quoi.
Ouais, c'est des quartiers.
C'est des quartiers entiers, quoi.
C'est une autre dimension.
Barcelone aussi, il y en a.
Ouais. À Barcelone, il y a plein de beaux projets. Je n'ai pas encore allé voir.
On ira ensemble un jour, Olivier.
Il faut qu'on y aille ensemble.
Et comment on rêve de voyager, Olivier? Si on se projette et si on rêve, c'est ce que tu fais, c'est que les éco-habitants font devenir la norme en France. À quoi ça ressemblerait ces mondes-là?
En fait, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une reconnaissance pas forcément sur tous les projets, mais par exemple, les coopératives en Suisse, elles ont un agrément logement social. Donc elles rentrent dans le cadre d'une politique fléchée logement social. Elles ont des loyers sociaux, elles ne payent pas le foncier, c'est des baux, enfin voilà. Donc si on pouvait gagner ça, alors évidemment en France ça dépend de l'État, alors qu'en Suisse ça dépend des États fédéraux. Donc le choix de Genève, Lausanne ou Zurich n'est pas le même que Berne ou Bâle, mais on s'en fout, mais en tout cas ça existe. Donc ce genre de choses. Et après, peut-être démultiplier le... Enfin, il peut y avoir des choses aujourd'hui qui existent. Des copropriétés, des gens qui habitent un vieil immeuble en location, où les gens se remettent à causer ensemble et à gérer ensemble. Parce qu'il n'y a pas pire que d'être dans sa bulle, sur son smartphone du matin au soir et du soir au matin, et de voter n'importe comment quand il y a des élections. Il n'y a pas pire que ça, quoi.
Donc, ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui, mais on voit bien que...
Les conséquences.
On était devant au dernier, mais on n'a pas gagné. Donc, tu vois bien le bordel. Quoi. Donc, ben voilà. Donc, si on pouvait irriguer, donner envie, tu vois, qu'on fasse de la participation à différents niveaux, mais qu'il y en ait plus, quoi.
Remettre du lien partout, quoi.
Voilà, mettre du lien.
Où on peut.
Les cités ouvrières, autrefois, les gens, ils déménageaient pas tous les 2 ans. Ils travaillaient, ils n'étaient pas au chômage de longue durée, mais ils se côtoyaient, ils s'engueulaient, ils se parlaient. Voilà, moi, j'ai grandi.
Ils s'aidaient, ils se soutenaient.
Ils se soutenaient, voilà. Donc... C'est un peu cette histoire-là quoi, qu'il faut réinventer. Quoi.
C'est sûr que oui, le modèle de l'habitat participatif contribue forcément à ça. Tu remets du lien, tu remets des gens ensemble, tu crées des collectifs.
Ouais, et puis, si possible, ouvert sur leur quartier. Ça aussi. Ne pas s'enfermer, tu vois. On est bien entre nous, là, tout va bien. On est entre alternatifs. On pense pareil.
Ils sont les du reste du monde, quoi. Oui, oui.
Et puis, bah, c'est un cocon comme un autre. Mais
exactement.
Ça, c'est dommage.
Et c'est en lien avec ce que tu viens de dire sur le fait d'ouvrir aussi ce type d'habitat et de logement à des vocations plus à logement social avec des niveaux.
Oui, parce que quand il y a eu une enquête, là, je ne sais plus qui l'a fait, ils interrogeaient les gens, ils disaient mais l'idée de connaître ses voisins et de faire des choses avec eux, c'est 30%, bon, c'est peut-être le tiers de gauche de France, j'en sais rien, mais c'est à peu près 30-35% des gens qui ont répondu oui. Après, ça à définir selon quelle modalité, parce que monter un projet d'habitat collectif comme on fait, c'est beaucoup de boulot, quoi.
Mmh. Olivier, on arrive déjà à la fin de notre émission.
Ouais.
Et on voudrait se quitter en musique. Avec ouais. une musique que toi, tu aurais choisie, qui t'inspire, qui te donne envie de partage. Est-ce que tu en as une en tête qui te vient là ?
C'est Like a Rolling Stone, voilà. C'est bien ça, Like a Rolling Stone de Dylan.
Et ben voilà.
Ça, c'est bien. Comme une pierre qui roule. Ça peut être pas mal, ça.
En plus, j'écoute ça, alors.
Ouais.
Bien énergétique. Allez, on y va.
Merci, Olivier.
Vous venez d'écouter Quelque chose en toi, une émission proposée par Marie Moisson et Leire Luengo.
Diffusé sur Jet FM tous les deuxièmes mercredis du mois à midi et en podcast sur le site de la radio jetfm.fr. On espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner vous aussi envie de vous lever et de vous engager. Thank you.
you.